Radio Spirale. En mars 2011, le CRILC réunissait deux essayistes pour une table ronde sur la thématique de la paternité québécoise. La table ronde avait lieu à la librairie Le Port de Tête et était animée par Pierre Neveu.
Alors, bienvenue à cette table ronde qui se situe dans le cadre des rencontres du CRILC, le Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture québécoise. Table ronde que j'ai le plaisir d'animer, donc je suis Pierre Neveu. Alors, je vais vous présenter donc les participants, mais aussi l'objet lui-même. Alors donc, on a pensé organiser une table ronde autour du livre de Laurie Saint-Martin, qui est paru il y a presque un an. Donc, Au-delà du nom, la question du père dans la littérature québécoise actuelle, aux presses de l'Université de Montréal, collection Nouvelles études québécoises. Alors, c'est à ce titre que je suis ici ce soir, d'abord, en même temps intéressé par la question, bien sûr, mais à titre de directeur de la collection. Livre paru en 2010. Alors, on a donné un titre, c'est-à-dire j'assume entièrement la responsabilité de ce titre, la paternité québécoise revisitée. N'y voyez pas la suggestion que ce serait une affirmation identitaire absolument forte, qui aurait absolument une paternité, une manière québécoise d'être père. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des spécificités québécoises, mais je pense que ce serait trahir le livre de Laurie que d'amener ça dans cette direction-là. Je pense qu'à plusieurs reprises, son livre précise que ce qu'elle trouve dans le corpus québécois, alors c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça paternité québécoise, revisitée, mais elle précise à plusieurs moments, lorsqu'elle fait des observations, que c'est aussi une situation qu'on trouve, dans la plupart des pays développés, par exemple le refus d'enfanter, d'engendrer, bon, qui peut exister aussi chez les femmes, mais qui est aussi présent chez les hommes. Bon, et d'autres phénomènes semblables. Je dois dire qu'en relisant ce livre que j'avais lu précédemment, il m'est revenu toujours un leitmotiv, mais c'est une citation très connue, mais en même temps peut-être qu'on pourrait la compléter et voir que d'une certaine façon assez inattendue, elle se rapproche du livre de Laurie. C'est la fameuse tirade du père Goriot dans Balzac. Alors vous connaissez la phrase célèbre mille fois citée, la patrie périra si les pères sont foulés aux pieds. La société, le monde roule sur la paternité. C'est une affirmation très forte, très patriarcale, mais il ajoute quand même ceci: tout croule si les enfants n'aiment plus leur père. Et je trouve ça intéressant, parce que donc là on a un père évidemment qui est en crise là, et dont ses filles exploitent au maximum, mais ce dont il se plaint, c'est pas d'avoir perdu son autorité, c'est pas de plus représenter la loi, c'est de pas être aimé, simplement. Et là je trouve qu'il y a quelque chose qui nous ramène à ton sujet, Laurie, c'est-à-dire précisément toute cette dimension affective du père, le corps du père, le père qui effectivement peut donner de l'amour, mais peut aussi être aimant. Alors, je vous présente donc d'abord Laurie Saint-Martin et aussi donc Nicolas Lévesque qui participe également à cette table ronde ce soir. Alors, Laurie, en deux mots, elle enseigne la littérature québécoise à l'UQAM. Elle a dirigé la revue Voix et Images. Elle a surtout publié de nombreux articles savants et poursuivi de nombreuses recherches sur l'écriture des femmes, sur la littérature québécoise, les théories psychanalytiques. Alors, je mentionne certains de ses ouvrages, mais c'est pas du tout exclusif. Contre-voix et cette critique au féminin chez Nuit Blanche en 1997. L'ouvrage suivant, en 1999, qui est un peu prépare celui-ci, peut-être en donnant le versant maternel, Le nom de la mère, alors que maintenant on est au-delà du nom, quand on parle du père, Le nom de la mère, mère, fille et écriture dans la fiction québécoise au féminin, donc chez Nota Bene en 1999, un ouvrage sur Gabrielle Roy, La voyageuse et la prisonnière, un recueil de nouvelles aussi, puisqu'elle pratique aussi la fiction, elle a été primée plusieurs fois au concours de nouvelles de Radio-Canada, mais elle a publié notamment Mon père la nuit en 1999. Elle est aussi traductrice, et je dirais traductrice émérite, surtout de romans canadiens-anglais avec son compagnon Paul Gagné. Ce qui fait que je dirais que c'est plutôt l'exception quand ils ne sont pas finalistes au prix du gouverneur général depuis l'an 2000. C'est presque chaque année, et même deux fois, je crois. Ils avaient deux titres. Hein?
Ils en ont eu trois titres.
Même trois.
Et on n'a toujours pas gagné cette fois-là.
Mais vous avez gagné deux fois, quand même.
C'est vrai.
Alors, inutile de dire, et je peux en témoigner, j'ai lu certaines de ces traductions, elles sont de très haute qualité. Alors donc, voilà pour Laurie, l'auteur du livre, Nicolas Lévesque, qui détient un doctorat en psychologie de l'Université de Montréal, qui a enseigné la psychanalyse et qui pratique la psychologie ou comme psychologue en pratique privée à Montréal. Il a été et est encore, d'une certaine manière, très lié à la revue Spirale. Il a été membre du comité de rédaction, responsable de Radio Spirale. Et il est toujours directeur de la collection Nouveaux essais Spirale chez Nota Bene, une collection que je vous recommande et où lui-même a publié deux titres, Le deuil impossible nécessaire, c'est ça le titre? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Essai sur la perte, la trace et la culture en 2002, qui ne pose d'une certaine façon, peut-être indirectement, la question du père, bien plus qu'une façon d'enterrer le passé. Le deuil est une question d'avenir, la question même de la transmission et de l'héritage. Alors, transmission-héritage, c'est sûr que ça nous ramène par la bande à la question de la paternité. Et alors, plus récemment, Teen Spirit, Nota Bene, encore une fois, Nouveaux essais Spirale, qui, dès la première page, nous dit « J'ai senti que j'aimais mon époque ». Et je dois dire, cette phrase-là, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant. C'est une phrase qu'on n'entend pas souvent aujourd'hui. On n'est pas tellement en accord avec notre époque, il me semble. Et là, voir cette espèce de prise en charge, j'ai pensé que désormais le monde aussi était mon enfant. Je trouve que c'est une belle phrase. Alors, Nicolas Lévesque a aussi le grand mérite d'être peut-être un des seuls, sinon le seul, dans la revue Spirale, sous le titre...
Quel titre de gloire!
Manifeste pour un Québec mixte. Alors, c'est intéressant, manifeste. Alors donc, il y a l'idée là, ici qu'il y a une... Ce livre-là est aussi, effectivement, une prise de position. Je pense que c'est très, très net. Alors, c'est sûrement le projet ambitieux de faire le tour des figures du père dans le roman québécois, surtout dans le roman. En gros, encore plus, c'est les années 90-2000, je dirais,
oui,
pour l'essentiel.
Enfin, la plupart. On peut dire à partir de 80, disons, mais les deux tiers des titres, au moins, sont parus depuis 90. Ah, ouais.
Alors, peut-être, bon, on peut se lancer, mais tu peux nous parler un peu de ton livre, mais je te lancerai peut-être dans cette direction-ci. Manifeste, mais alors on pourrait dire, est-ce que c'est un manifeste anti-psychanalyse, ou en tout cas, il y a sûrement dans ton livre une critique qui est assez soutenue, elle est forte au début, mais on la retrouve périodiquement, d'une certaine vision psychanalytique, notamment lacanienne ou néo-lacanienne du père. Donc, tu trouves ça binaire, t'as plusieurs critiques, tu peux les formuler mieux que moi, peut-être. Mais en ce sens-là, est-ce que c'est un livre manifeste?
Je ne le vivais pas comme ça, mais je crois qu'il y a vraiment cet élément-là, c'est-à-dire qu'une des choses, je m'indignais. Parfois, en lisant les textes théoriques, et je me disais, non, mais c'est pas possible de voir la paternité de cette façon. Et certaines de ces colères, effectivement, s'y retrouvent. Hein, du Daniel, là, sur l'idée que le père, il faut ramener l'autorité, il faut ramener la loi, il faut que le père réel n'est pas important, que ce qui compte, c'est la fonction symbolique d'interdire et tout ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de fonction d'interdiction dans la société et tout ça, il faut ça, bien sûr. Mais c'était toujours cette idée que la paternité réelle n'avait pas de valeur, n'avait pas d'intérêt. Et plusieurs de ceux qui défendaient ce point de vue-là se mêlaient en même temps des conseils aux parents. En disant, le père, il ne faut pas qu'il touche trop l'enfant. Le père, il ne faut pas qu'il soit trop près. Il faut qu'il soit un petit peu un père. Aldo Nauri dit, le père, c'est comme une pile. Si on l'utilise trop souvent, il s'use. Il faut le garder pour les grandes occasions. Et des choses comme ça. Et ça, c'est plus de la psychanalyse, ça. Hein, c'est vraiment se moquer des gens. Hein, et c'est vraiment... Moi, je pense qu'il ne faut pas dire ça. Moi, en tout cas, s'il y a quelque chose, là, oui, qui pour moi pourrait relever du manifeste, entre autres, ce serait cette idée-là. Moi, je crois qu'un père, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Un père, mm-hmm. c'est quelqu'un qui est là, mm-hmm. effectivement, qui aime ses enfants, qui les touche, mm-hmm. hein, qui est affectueux, qui est prêt. hein, mm-hmm. des enfants à sa manière, en parole, en caresse, bon, ben, ça dépendra de lui, mais qu'il soit là. Et toutes ces théories en disant il faut qu'il soit loin, il faut qu'il soit fort, il faut pas qu'il y ait de faille dans cette carapace du père et tout ça, m'apparaissait vraiment comme un retour à des valeurs auxquelles on ne croit plus tellement. Mm-hmm. Et c'était aussi, mm-hmm. effectivement, comme tu dis, très binaire, c'est-à-dire, il n'y avait pas de mixité. Mm-hmm. Ça, c'est mon autre mm-hmm. manifeste. C'est mon Nicolas l'a bien compris pour la mixité. Parce que là, t'as un rôle du père. Hein, qui est l'autorité, mmh. et le rôle de la mère, qui est comme d'habitude, mmh. s'occuper dans le quotidien, changer les couches, prodiguer l'affection, etc. Mmh. Et ça, je n'y crois pas, tout simplement. Mmh. Et puis, bon, ça, c'est vrai que cette indignation est sortie par moment.
Mais dans cette critique-là, tu, je dirais que tu reprends aussi en charge la critique féministe de la psychanalyse, c'est-à-dire précisément dans la mesure où ça renvoie la mère très souvent au biologique,
fonction. Ben, le père, c'est le spirituel, mm-hmm. hein, c'est l'abstrait, et la mère, c'est encore le quotidien et le corps et tout ce qui bat. Mm-hmm. Et pas très considéré, effectivement. Et bon, ça reste. Bon, j'ai une partie où je parle de cette belle phrase de Luki Bersianik où elle prend le nom du père, là, Agamemnon. Elle dit Agamemnon. Point d'interrogation. Non. Alors, le nom du père, il n'aime pas. Il n'aime pas sa fille, la fille se demande. Et non, il n'aime pas sa fille parce qu'il la sacrifie mm-hmm. à l'ordre guerrier mm-hmm. auquel mm-hmm. il appartient. Mm-hmm. Hein? Et ça, cette critique féministe, à mon avis, reste d'actualité dans un sens. Et tous ceux qui ramènent ce discours, à mon avis, sont aussi en réaction contre tout ce qu'a amené le féminisme, c'est-à-dire justement mixité, rôle plus ouvert, plus de possibilités pour chacun, des rôles moins binaires et plus ouverts pour les hommes aussi. Mm-hmm. Hein. Et mm-hmm. les pères, dans les livres, en général, comme dans la vie, en tout cas les pères que je connais, ne revendiquent pas ce rôle-là d'autorité. Ils mm-hmm. veulent être proches, ils veulent. Mm-hmm. Très aimé.
Oui.
Je pense que c'est pas juste ma tirade. Je pense. Oui, déjà depuis le père Goriot, c'est ce que recherchent les pères. Il est bien malheureux parce que ses filles ne l'aiment pas tellement.
Non, non.
Elles aiment son argent.
Oui,
hein, c'est pas la même chose.
est-ce qu'il y a pas aussi, enfin, ça occupe moins de place dans ton livre, mais ponctuellement, ça apparaît, et donc tu te situes aussi par rapport, mais sur un mode critique par rapport à un autre objet, qui est ce que tu appelles la lecture au masculin de la littérature québécoise. Alors là, ça c'est plus bref, ça occupe moins de place dans ton livre, mais tout de même, je pense que de toute façon, on peut dire que tout ton livre s'oppose contre une certaine lecture au masculin de la littérature québécoise, c'est-à-dire, et là tu cites notamment André Manas, François Ouellette, peut-être deux ouvrages surtout, chez qui finalement la littérature québécoise, c'est l'histoire d'un fils incapable d'accéder au statut de père, un fils qui a pour un tel sentiment de culpabilité qu'il ne peut tuer le père et devenir père à son tour. En même temps, tu dis c'est toujours le rapport père-fils qui est en cause et rien, les mères, les filles sont finalement très secondaires. Ça pose aussi toute la question du corpus, disons, entre guillemets, national et de lecture qu'on peut en faire. Mm-hmm.
Ben, mon corpus à moi, là, le corpus sur lequel moi je me suis penchée, je l'ai vraiment voulu mixte. Mm-hmm. Et je ne faisais pas de calcul au fur et à mesure, mais il se trouve que c'est à peu près vraiment mathématiquement moitié-moitié. J'étais bien contente de ça. Parce que ce que je trouvais, c'est que ces modèles, effectivement, je ne dis pas que ça ne produit pas parfois mm-hmm. des lectures intéressantes. Là, elles sont valables à leur manière, mais il y avait tellement de choses qui étaient occultées, et ça me gênait beaucoup, et notamment, effectivement, un projet national, on pourra en parler avec Nicolas, qui est conçu comme, justement, une affaire de père et de fils, et pour moi, la pièce que j'avais trouvée par hasard en librairie, à un moment donné, la pièce de Leclerc, là où il y avait, qui est le père, hein, une pièce que moi, je ne connaissais pas, je suis tombée dessus par hasard ça, et la grande histoire de la pièce, c'est que Jean-Baptiste a, ou pense avoir un fils, mais peut-être que sa femme Québec, là, l'a trompé, et que ce serait l'oncle Sam, ou que ce serait John Bull, hein, donc l'Angleterre, ou les États-Unis, qui serait le père de son fils, donc qui ne serait pas son fils, et sans ça, il n'est pas père, il n'y a pas de produit, de projet national, il n'y a rien, là. Et finalement, l'idée, c'est que tout repose sur la femme, mm-hmm. hein, parce que mm-hmm. si elle a été infidèle, ben, il n'y a pas de projet national, mais en même temps, elle n'est pas sur scène, elle ne parle jamais, on ne la voit pas, et on ne songe pas à lui demander, oui, et puis, c'est qui le père, hein? Vous voyez, elle n'a pas de parole, elle n'existe pas. Alors, la façon dont elle était à la fois essentielle, mm-hmm. hein, parce qu'après tout, elle a produit cet enfant-nation, est complètement évacuée et sans parole, sans rien, en fait, sans existence propre. Ça m'a vraiment frappée. Et dans les modèles textuels que tu as mentionnés, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne voit que les pères et les fils. Et je ne dis pas que c'est pas intéressant, j'en parle des pères et des fils dans mon livre, mais je pense que c'est un modèle qui, de ce point de vue-là, a ses limites, qui fait de la mère ben, une reproductrice, mm-hmm. c'est pas nouveau, et de la fille, ben, elle n'existe pas. En gros, on la voit pas, il n'est jamais question d'elle. Et c'est pour ça que moi, je voulais avoir et des textes d'hommes, et des textes de femmes, et des textes... Parfois, c'est des femmes qui parlent de fils. Ou des hommes qui parlent de filles, peu importe. Mais toutes ces sortes de mixité-là étaient au cœur de mon projet. Oui, ça, c'est vrai.
Peut-être qu'on pourrait donner la parole à Nicolas, quand même.
Ben oui.
Je pourrais lui parler.
Oui, psychologue, hein, ça attend.
Mais j'avais peut-être juste une petite question au départ. C'est, bon, t'as fréquenté la psychanalyse quand même, mais je peux dire que tu prends tes distances, tout t'indique en tout cas que tu prends tes distances par la psychanalyse, mais comment tu vois cet enjeu-là, cette critique là, dont je dois dire que ta recension, sauf erreur, en fait pas non plus, en tout cas, il n'y a pas de... tu sembles pas heurté par la chose, en tout cas.
Pas du tout, non, je dirais pas que c'est un livre anti-psychanalytique, c'est un livre au fond... c'est la psychanalyse qui est anti-psychanalytique, ça, selon moi, et que son point de vue ramène ce que la psychanalyse, je pense, où elle doit aller, où elle doit être. En fait, c'est plutôt un renouveau psychanalytique, je dirais.
Moi, je le voyais pas comme un rejet ou une interrogation.
C'est ça. Je pense qu'il y a même un amour, je pense, de la psychanalyse dans le livre qui est dérangé parce que la psychanalyse est devenue, par exemple, Naouri, c'est un bon exemple, mais... Bon, il y a eu Michel Schneider, il y en a eu plusieurs, des propos vraiment très, très, on pourrait dire, conservateurs, rétrogrades, la psychanalyse qui était subversive et devenue le bras droit de... Oui, ben c'est que la dimension politique, c'est pour ça que j'ai appelé ça manifeste, ma critique, c'est que c'est l'angle mort de la psychanalyse depuis toujours, et elle se fait avoir justement par son propre foulée, si on veut. C'est que la dimension politique a toujours échappé à Freud lui-même et on voit à Lacan moins, mais on voit que ça l'a pris aussi par surprise. Puis bon, tout le rapport de la psychanalyse aux politiques est très, je dirais, très problématique actuellement. Puis on le voit par des prises de position sociales qui sont complètement, justement, la psychanalyse est devenue un peu le gardien du pater, là, du patriarche. Puis ça s'explique de plusieurs façons. Même Lacan, son retour à Freud, d'une façon intéressante, c'est aussi un retour au père, au fond, la psychanalyse, mais d'une façon aussi un retour au père, je dirais, de la tradition chrétienne, au fond, judéo-chrétienne aussi. Donc, c'est sûr que le livre de Laurie m'intéressait aussi parce qu'elle joue avec des symboles énormes. Là, c'est toute notre culture qui est bâtie autour de cette symbolique du père. Mm-hmm. Puis l'intérêt du Québec, je trouve, là-dedans aussi, puis je trouvais ça intéressant que vous fassiez de la traduction. Je me demande si c'est pas aussi notre côté anglo-saxon qui nous permet une certaine distance, peut-être, avec cette figure du père, parce que quand même, il y a aussi quand même un penchant vers la mère dans la culture anglo-saxonne qui est là, qui peut-être nous permet d'avoir plus de distance, parce qu'en France, le débat est assez difficile sur ces questions-là. Mm-hmm. Du père, on sent que ça joue vraiment avec des cordes qui sont beaucoup moins sensibles au Québec, on dirait qu'on est. En tout cas, peut-être qu'on pourra en parler tantôt, mais cette image de la mère vient... Évidemment, l'idée, c'est pas d'opposer la mère et le père, là, parce qu'il y a un dogme de la mère aussi, là, un naturalisme qui est pas mieux que le spiritualisme du père. Mais en tout cas, tout ça pour dire que son livre propose une sortie de cette dichotomie-là entre la nature et la culture, entre le père séparateur qui donne le symbolique, comme si les mères donnaient aucun symbolique, ce qui est quand même épouvantable, mais c'est le discours psychanalytique actuel.
C'est comme ça qu'il le présente, hein, carrément.
C'est que si le père s'en va, ben les pauvres enfants, ça va rester des animaux. En tout cas, c'est un peu ça qui c'est aberrant, mais c'est ce que la psychanalyse.
Juste si les enfants ne portent pas le nom du père, ils sont ruinés. Hein? Parce qu'ils vont dire à la fois le nom du père, c'est pas la même chose que le patronyme. Et à d'autres moments, ils vont s'indigner en disant oh oui, mais que les enfants portent le nom de la mère, par exemple, c'est une aberration où s'en va la société. Il y a un côté apocalyptique.
Oui,
hein,
c'est
dans cette rhétorique-là que je ne supporte pas.
Mais c'est ce qui est très frais dans votre livre, c'est de dire que la chute du père n'est pas la chute de la société, au fond. C'est pas la décadence, c'est pas Sodome et Gomorre, et puis c'est pas... Hein, c'est souvent ça le discours, au fond. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup ce discours-là, c'est-à-dire qu'en perdant l'autorité traditionnelle, donc on s'en va nulle part dans la débauche. C'est pour ça que j'ai écrit Teen Spirit, pour montrer que oui, c'est bouleversant, mais c'est nécessaire aussi.
Mais c'est une transition, hein?
C'est ça.
Les transitions sont douloureuses, elles sont difficiles, parce que quand on perd ou qu'on renonce ou qu'on refuse quelque chose, peu importe,
ouais,
que ce soit choisi ou subi, après ça, il y a un vide. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ce modèle-là? Et même si on est d'accord qu'il ne nous convient pas,
ouais,
il faut trouver autre chose. Et puis, surtout si on y tenait, là, on est d'autant plus bouleversé, évidemment. Et ça, je pense que... Enfin, je le sentais très fort tout le temps que je travaillais sur le livre, parce qu'il y a vraiment... Il y avait des choses qui tombaient. Et qu'est-ce qu'on met à leur place? Et je pense qu'on n'en a pas fini, hein, de répondre à cette question. C'est long, hein, des transitions comme celle-là, mais on est en plein dedans, en tout cas. Puis moi, je trouve que... Et, bon, il y a des psychanalystes français qu'il faudrait mentionner aussi, qui sont très intéressants, comme Michel Thor,
mais oui,
ou Sabine Procoris, qui prennent un peu le contre-pied,
c'est
même
ça,
beaucoup le contre-pied de ce discours apocalyptique. Et Sabine Procoris va dire quelque chose comme quand il y a le chaos, c'est pas le chaos, c'est une danse qui s'invente.
Ouais.
Et j'aimais beaucoup, beaucoup cette image qui est de dire que nous en sommes à inventer des nouvelles choses. Les pères d'aujourd'hui le font, dans leur vie, et les romanciers le font aussi. Puis un roman, c'est aussi une question. Hein? C'est une... Enfin, ça peut être toutes sortes de choses, mais entre autres, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va?
Ben, c'est peut-être le rôle des intellectuels aussi de justement pas paniquer, de soutenir cette transition-là, d'être capable de tolérer l'angoisse, de tolérer l'incertitude, et au lieu de justement paniquer puis de dire il faut tout de suite, le Titanic coule, alors il faut tout de suite le réparer.
C'est
puis,
ça. Faut pas écouter trop les discours médiatiques, grand public non plus,
c'est
parce
ça,
que là aussi, c'est la fin de tout, la chute du père de ceci, là, ça, les enfants non plus, là, bon, il n'y a plus de repères. Et ça, c'est tellement alarmiste.
Oui.
Et c'est tout le temps comme ça. Parce que ça, c'est intéressant, ça fait vendre. Hein?
Oui, les médias, c'est...
La panique fait vendre beaucoup plus que le calme et le recueillement.
C'est pour ça que les psychanalystes qui ont un autre discours, on les entend moins. Parce que les médias sautent sur les psychanalystes rétrogrades.
Oui, ben voilà, exactement. C'est ça. Et puis ça, on le vit, on est pris là-dedans. Mais je pense aussi qu'il faut prendre le temps. Puis
comme votre livre, d'ailleurs, qui a pas une couverture médiatique suffisante. Et on comprend pourquoi, parce que c'est nuancé, c'est évolué, et c'est pas un livre, parce que je suis certain que ça aurait fait les manchettes si ça avait été un livre pour dire où sont les pères d'hier, et puis où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, et puis ramenons la vraie autorité.
Probablement.
Moi, j'aimerais ça, peut-être pour concrétiser un peu aussi, que tu nous parles un peu de ton corpus, c'est-à-dire ce qui est frappant, c'est que t'as un grand éventail de rapport au père. Bon, ça, on a la figure même des filles parricides au début, les filles qui veulent tuer leur père et qui le tuent parfois. Les pères empêchés, absents, d'autres. Bon, il y en a plusieurs autres types qui apparaissent au fil des pages, souvent vers la fin, des figures plus actuelles, progressistes, on pourrait dire. Plus... Mais en tout cas, c'est très varié, à la fois comme corpus et comme typologie, si on veut. Peux-tu nous en parler un petit peu, nous dire un peu comment tu as travaillé?
Oui, au départ, je n'avais pas du tout de thèse, hein, disons, ou d'hypothèse même. Tout ce que j'avais, c'est un désir de chercher, hein, de lire beaucoup de romans et de voir ce qu'il y avait là-dedans. Alors, j'ai lu, j'en ai lu beaucoup plus encore que ceux qui sont là, évidemment. Et mon idée, c'était que j'allais retenir, bon, j'ai retenu quelques livres un peu, comment dire, particuliers, qui étaient seuls de leur espèce, mais en général, ce que je cherchais, c'était des tendances. Alors, la plupart des chapitres sont axés sur 3 ou 4 livres qui présentent une figure un peu semblable. Et ce que je voulais, c'était de voir, effectivement, comment les romanciers parler des pères, quel genre de pères on avait. Et donc, c'est le corpus qui m'a donné, qui a construit le livre en quelque sorte. Je n'avais pas l'idée au départ que je devais défendre telle thèse ou telle hypothèse, alors que très souvent, dans beaucoup de livres universitaires, on va trouver une thèse au départ, puis on va prendre des 3-4 livres qui l'illustrent le mieux, puis c'est une bonne guerre. Bon, je l'ai déjà fait aussi, c'est pas grave. Mais là, ce n'est pas ça que je voulais faire. Mon projet, c'était de lire, puis de dire, mais qu'est-ce que les romanciers posent comme question, comme point d'achoppement, comme douleur? Et j'étais frappée de voir combien le corpus était plein de douleur. Chaque fois que je rédigeais un chapitre, je me suis dit, oh non, mais encore un chapitre difficile, encore un chapitre déprimant, l'inceste, la mort du père, la mort de l'enfant,
et plusieurs autres. C'est pas un livre sur le père, la mort au soleil. Je peux pas dire ça.
C'est-à-dire que la plupart des livres étaient... porté par une certaine angoisse, effectivement, par des douleurs, puis il y a des douleurs diverses et profondes autour de cette question du père. Beaucoup de morts, mm-hmm. beaucoup de meurtres, plus que je ne le pensais, peu d'infanticides, mais plusieurs parricides, effectivement, mm-hmm. et puis surtout, en même temps, beaucoup de violence. Finalement. Mmh. Mais en même temps qu'il y avait toute cette violence et toutes ces morts, il y avait aussi, et même dans les livres les plus violents et les plus sombres, il y avait aussi tout le temps ce désir qu'il y ait autre chose. Mmh. De créer ou de trouver autre chose, de vivre autrement leur rapport avec le père. Et même la plupart de ceux qui portent un jugement très négatif sur un père fictif particulier ou qui constatent une impasse quelconque, invite à autre chose. Ça peut être quelques mmh. lignes, ça peut être quelques pages. La plupart des livres ne les donnent pas à voir ces nouvelles avenues, mmh. mais ils les appellent. Mmh. Hein? Et à la fin, il y a quelques livres, effectivement, qui parlent du point de vue du père, parce qu'il y avait beaucoup, la grande majorité, si vous pensez aux livres que vous avez lus sur le rapport père-enfant, la grande majorité sont écrits du point de vue de l'enfant. C'est l'enfant qui est le personnage principal ou le narrateur, puis il va dire « mon père était, bon, il était bien, il n'était pas bien, etc. » Il porte le jugement. Alors qu'il y a quelques livres où les pères vont commencer à parler de cette nouvelle paternité. Et mm-hmm. ça m'a semblé quand même une tendance vraiment prometteuse et intéressante.
Je pense par exemple, Maxime-Olivier Moutil.
Par exemple, il y a quelques ouvrages comme ça. Christian Saint-Germain a fait un petit essai aussi. Mm-hmm. Et c'était témoignage sur un amour et une vulnérabilité. On pourrait dire là aussi le beau roman de Pierre Neveu, qui est un père empêché.
C'est
un des beaux livres de mon campus, honnêtement, et ce n'est pas parce que tu es là. Là, c'est un père qui perd très vite sa fille. La mère repart en France avec le bébé, là, qui est tout bébé encore, et plus tard, la fille, à quoi, 18-20 ans, il se retrouve. Mais il y a grand amour mm-hmm. pour cette fille, un malheur, mais aussi quelque chose dans ce sentiment-là, de cette vulnérabilité que j'ai trouvé dans plusieurs livres et qui est très, très touchant.
Je ne veux pas m'attarder sur mon cas personnel, mais je dirais une chose. Curieusement, c'est l'inversion d'une histoire féminine que j'ai entendue.
C'est vrai?
C'est-à-dire que c'est une mère, et ça m'a beaucoup bouleversé. Une mère qui a eu un enfant, c'est quelqu'un d'ailleurs d'assez connu dans le milieu littéraire, je ne vais pas donner son nom. Elle m'a raconté cette histoire. Elle a eu un enfant très jeune, et le père est parti très loin. Elle ne l'a pas revu pendant son enfant pendant 20 ans. Et évidemment, là, elle me parlait de ses retrouvailles qui étaient difficiles, qui étaient comme ça. Et je dois dire, cette histoire-là m'avait vraiment fasciné. Évidemment, c'est quelque chose qu'on entend aussi dans l'actualité. C'est souvent, effectivement, les pères. Il y a plusieurs pères étrangers, par exemple, qui sont repartis à l'étranger avec leur enfant, mais il y a eu aussi des mères qui l'ont fait. Alors, je dois dire, c'était ça au départ.
Quand on pense aux parents empêchés, mm-hmm. on pense au père, parce qu'évidemment une femme, elle va être, même si elle donne son enfant en adoption, elle mm-hmm. ne peut pas ne pas savoir qu'elle est enceinte, alors que le père, il peut même ne pas savoir mm-hmm. qu'il a été. Mm-hmm. Il y a beaucoup de films sur ce thème, entre autres.
Nicolas, cette violence ou cette douleur du père, comment tu l'interprètes? C'est vrai qu'on le sent, beaucoup dans le corpus de
beaucoup.
Québécois, est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement québécois? Là, on revient à la question de la spécificité.
Je l'interpréterais, ce qui ressort beaucoup, je trouve, du livre, qui est intéressant, qui dit au fond que la littérature est une des façons, je dirais, pour le Québec de vivre une psychanalyse aussi. Hein. Il y a quelque chose d'intéressant mm-hmm. dans la littérature comme quête psychanalytique, on pourrait dire, de se rapprocher du père par le biais de la littérature. Puis c'est peut-être la proximité qui, pour moi, était la question la plus troublante dans le livre, c'est de voir à quel point il n'y a pas de proximité, en fait. C'est une espèce de tragédie de la proximité, on pourrait dire, le corpus qui est étudié, et puis probablement...
De proximité, tu veux dire?
D'avoir accès au père, c'est-à-dire c'est ça qui m'a intéressé. C'est pas une proximité concrète, physique, c'est-à-dire que c'est une proximité mm-hmm. beaucoup plus subtile, affective, c'est-à-dire mm-hmm. que les pères peuvent être là, mais qui sont de marbre, ou qui sont distants, ou qui... Et je pense que la violence peut être interprétée comme cette impossibilité d'avoir accès à l'autre. Et quand l'autre nous ferme la porte, on peut avoir tendance à cogner. Puis quand on sent que la porte est vraiment barrée, on peut avoir envie de la défoncer. Puis la violence peut être beaucoup liée à ça, c'est-à-dire une espèce d'impossible accès à l'intériorité de l'autre. Et donc, le père québécois, en tout cas dans le corpus, est inaccessible dans ce sens-là. C'est-à-dire, souvent, on a pensé qu'il était inaccessible physiquement, mais finalement, en lisant ça, on se rend compte qu'il est inaccessible, je dirais, émotivement, même quand il est là. Donc ça, c'est encore plus tragique, au fond, que même quand le père est là, il n'est pas là.
À moins qu'il soit trop proche, comme dans le cas de l'inceste.
Voilà, soit il est trop proche.
Oui, mais l'inceste, c'est aussi une distance, au fond. C'est une proximité physique, mais l'inceste, c'est aussi de prendre son enfant comme un objet, au fond, et puis à la limite même soi-même comme un objet. Donc je suis pas sûr que je pense que, et dans les crimes c'est très bien expliqué dans le livre, de l'excès ou dans les crimes du vide, soit l'absence ou l'abus, les deux, c'est une sorte d'anesthésie affective, au fond, et que la proximité réelle dans les deux cas est un échec.
Oui, je parlais de la bonne distance qu'on n'arrive pas à trouver. C'est trop près, mais effectivement c'est pas une vraie proximité, ou encore c'est trop loin, et là encore il ne se passe rien parce que le père est absent, mais comme s'il est là,
comme
ou
le viol par exemple est un échec de proximité, au fond, c'est de l'impossibilité d'avoir une relation, exactement,
c'est ça.
Donc ça ressort beaucoup du livre, c'est très intéressant de voir que c'est un des défis de la mixité, c'est la proximité, c'est-à-dire que c'est incroyable toutes les choses qu'on fait pour ne pas être proche de soi et donc des autres.
De soi et de l'autre, effectivement. Ouais.
Mm-hmm. Tu parles de la mixité, mais peut-être que c'est une question que je voulais poser plus loin, mais on pourrait peut-être en parler, parce que c'est quand même une notion importante. Et Laurie, la définition la plus claire que j'ai trouvée, c'est à la toute fin, dans la conclusion.
Mauvais, ça aurait dû être dans l'introduction.
Peu importe, parfois c'est à la fin qu'on peut totaliser.
Non, voilà, c'est peut-être ça.
La mixité entendue comme un moyen de repenser les rapports entre les sexes afin de les faire se côtoyer harmonieusement dans les espaces privés, publics, écoles, milieux de travail, politiques, etc. J'avais une question là-dessus. Il me semblait, alors je comprends très bien et je vois très bien que c'est un horizon et qui d'ailleurs est actualisé plus ou moins dans certaines œuvres. On a mentionné quelques-unes tout à l'heure. En même temps, dans cette section-là, tu te réfères notamment, je vais mentionner en particulier un roman, un des plus connus du corpus, le roman de Gaëtan Soucy, la petite fille qui aimait trop les allumettes. Je trouve ça paradoxal, parce que c'est une mixité, s'il y en a une, qui repose sur la disparition ou la mort de la mère, sur un déni du féminin, et là je reprends les formules que tu emploies, tu parles par exemple déni du féminin, ce que je comprends, c'est que la mixité, à ce moment-là, c'est plus un souvenir, c'est une mixité mémorielle, une sorte de paradis perdu, parce qu'il y a eu une mère à un moment donné. Toujours est-il, en tout cas, que dans les fêtes, cette mixité-là, elle est effectivement passablement révolue. J'ai pas bien compris, mais il me semblait que la notion de mixité ici se heurtait, était un peu paradoxale dans le contexte, non?
C'est-à-dire que il me semble que les romans qui étaient dans ce chapitre-là, il y a aussi le petit roman d'Anne Hébert là-dedans, Aurélien, Clara, Mademoiselle. Le jour des Corneilles, Aurélien, Clara, Mademoiselle et le lieutenant anglais d'Anne Hébert. Mm-hmm. Et ces trois livres, effectivement, qui me semblent appeler la mixité. Mm-hmm. Mais par son absence, c'est-à-dire en faisant le diagnostic, mm-hmm. en quelque sorte, du fait que quand la mixité n'est pas là, et dans ces trois livres, la mère est morte, il y a longtemps. Et c'est là que l'action débute, ou c'est dans les temps mm-hmm. presque immémoriaux. Mm-hmm. C'est une sorte de refoulement du féminin très violent qui est commis par ses pères, qui se replient dans une forêt ou enfin dans un non-lieu qui sort de la culture justement pour aller dans une sorte de nature sauvage et qui ne veulent plus parler de la mère ou qui ne peuvent en parler que d'une façon vraiment pathologique là, dans mm-hmm. le roman de mm-hmm. Beauchemin ou pas du tout dans les deux autres. Et dans ce sens-là, il me semble que justement en montrant comment sans la mixité on est perdu, mm-hmm. c'était des appels mm-hmm. à la mixité. Mm-hmm. Hein? Parce que quand on est là avec le seul père qui fait régner cet ordre, qui devient fou à force de ne pas penser le féminin, on doit se dire, eh bien, si on pouvait le faire, mm-hmm. cette famille, elle serait autrement. Et il me semble qu'enfin, ça fait partie de cette sorte de revendication, parce qu'une famille, on va dire, traditionnelle, hétérosexuelle, elle est mixte. Elle est mixte au départ, hein. Il y a mère et père, mais après ça, on soit... un n'est pas là, l'autre n'est pas là pour des raisons de mort, de divorce, etc. Ou encore, on a ces rôles stéréotypés dans un comme dans l'autre, ce n'est pas mieux d'une certaine façon. Et il me semble que c'est ça, ces romans-là étaient comme des catastrophes, mais qui en appelaient... Oui, c'est ça, exactement. Presque comme des symptômes, là, si on veut, qui en appelaient à autre chose et qui en appelaient, pour moi, à la mixité, justement. Pour moi, c'était un morceau important, là, de cette revendication de la mixité, en montrant ce qui se passe quand elle n'est pas là, en quelque sorte.
Mais ce que je comprends aussi, c'est que c'est une mixité qui, idéalement, ferait en sorte que le père serait aussi un peu maternel et que la mère serait aussi un peu paternelle.
Ben oui, justement.
C'est jouer à l'intérieur des gens.
Oui, c'est pas un retour à la binarité, c'est complètement
autre chose. Mais c'est ça le discours très rétrograde qu'on critiquait de la psychanalyse, c'est-à-dire que c'est comme si une mère monoparentale était incapable d'élever son enfant parce qu'il manquait un père. Et puis c'est complètement ridicule. Et puis bon, comme si, par exemple, un couple de deux lesbiennes qui élèvent un enfant, ben l'enfant n'aura pas accès au symbolique ou des histoires un peu absurdes comme ça. Donc évidemment, c'est à l'intérieur de soi que la mixité, c'est pas une mixité, je dirais, concrète. C'est-à-dire que c'est pas il faut que le père soit là 10 heures par semaine et puis la mère.
Cette vision-là est quand même
est très répandue.
C'est même très répandue.
C'est pour ça que je trouve ça très frais comme livre. C'est que l'importe. Puis même, on pourrait dire, les jeunes générations le font beaucoup comme ça aussi. C'est-à-dire que bon, moi je suis un bon père parce que je suis à la maison beaucoup. Ce qui est pas faux, mais ce qui est loin d'être suffisant. Moi, j'ai, je sais pas, mon cabinet de psy, plein de gens que leurs parents étaient là souvent, et puis c'est pas suffisant. c'est pas suffisant. Donc, c'est pas une question de quantité de présence, hein, ou une quantité de mixité. Par exemple, les gens vont dire, il faudrait bien que cet enfant-là connaisse un père ou des hommes, donc là, ils vont inviter plus souvent un oncle. Mais c'est pas une question de quelque chose d'aussi concret que ça, de ce dont on parle, c'est-à-dire que souvent dans l'histoire, il y a eu un déni du féminin assez puissant, valorisé socialement aussi, dans le fond, et qui affectait, par exemple, les mères elles-mêmes, les pères eux-mêmes, et puis féminin, on pourrait parler de sensibilité, on pourrait parler de leur corps. Donc, un parent qui nie toutes ces dimensions-là, qui sont les dimensions de tous les êtres humains, finalement, tous les êtres humains ont un corps, ont une sensibilité. Donc, ça crée, oui, des problèmes, mais c'est quelque chose qui appartient à chaque individu. Là. N'importe quel adulte peut élever un enfant très bien en n'ayant pas ces dénis-là, finalement. C'est ça qu'il faut dire et répéter, que l'important, c'est quelqu'un qui n'est pas plein de dénis, de clivage, et qui a accès à toutes ces dimensions-là, dans le fond, de lui-même. Puis ça, c'est un bon parent, on pourrait dire, qui va peut-être être aimé par ses enfants, justement.
Et c'est encore à inventer, ça. Il n'y a pas de modèle pour ça. Et c'est ça, la beauté de la chose, en quelque sorte, c'est qu'aujourd'hui, on est à une époque où on peut inventer ces choses, mais il y a une angoisse à inventer, il y a une difficulté à inventer, mais c'est aussi une danse, hein, on pourrait dire. On voit beaucoup de choses, mais même, il y a eu un mémoire de maîtrise qui a été fait chez nous à l'UQAM, en disant que même les jeunes étudiants qui avaient toujours été dans des couples très égalitaires, pardon, quand l'enfant arrivait, même ces jeunes-là avaient tendance à retomber dans les modèles qu'ils avaient vus ou dans lesquels ils avaient grandi, et revenir à des rôles traditionnels. Alors, c'est un défi constant, je crois.
Tout à fait. Puis ce qui est intéressant de la période actuelle aussi, je pense, c'est que ce qu'on découvre, c'est qu'un bon parent, puis là, on parle du père, un bon père, c'est peut-être aussi quelqu'un qui échappe au modèle ou qui échappe au rôle. C'est-à-dire que c'est... On parle beaucoup du rôle, mais de la fonction, mais... quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un qui est pas juste dans son rôle aussi. Je pense qu'un père qui est capable, pas de fuir son rôle, mais en tout cas, puis il y a pas son rôle d'ailleurs, mais d'échapper, d'être une personne singulière, au fond, d'être capable d'échapper à ces rôles-là, de pas être quelqu'un de féminin ou de masculin ou d'autoritaire ou de maternel.
Toutes ces catégories sont tellement réductives.
Ben, c'est ça.
Finalement.
Quelqu'un qui échappe à ça.
Peut-être, mais il faut pas s'enfermer.
C'est ça. Puis peut-être que le rôle comme tel, c'est vrai, par exemple, un bon professeur, c'est quelqu'un qui est pas juste un professeur. Un bon père, c'est peut-être quelqu'un qui est pas juste un père, justement, ou en tout cas. Donc ça ouvre cette dimension-là qu'il faut pas juste parler des rôles, en fait. Socialement. peut-être le rôle lui-même est problématique, finalement, en soi.
L'idée de rôle en soi, quelle que soit la définition qu'on en donne. Mm-hmm.
Même le rôle féminin, à la limite, on pourrait dire. Enferme la femme dans un rôle, en tout cas.
Oui, en ouvrant l'un, on ouvre l'autre. On ne peut pas ouvrir l'un sans ouvrir l'autre, d'ailleurs. Mm. C'est interdépendant, ces deux catégories-là, bien sûr.
Alors, c'est sûr que c'est un sujet qui forcément touche la société, la psychologie, bon, tout ça. En même temps, je vais juste revenir à la notion littéraire comme telle, parce qu'il me semble que ça, c'est une problématique qui est présente tout au long de ton livre, qui revient périodiquement, qui est peut-être présente aussi dans le commentaire que fait Nicolas dans sa recension, lorsque tu écris, est-ce que je vais retrouver la citation? Oui, Laurie Saint-Martin lit les romans de son corpus comme la recherche de cet autre rituel ouvert, singulier et imprévisible que peut incarner l'écriture. Alors, la question que je me posais là-dedans, qui est posée d'ailleurs chez toi de temps à autre, c'est le statut des textes littéraires par rapport à la situation sociale. Je donne un exemple, tu dis, c'est vers le début plutôt, quand tu parles des filles parricides, les filles qui veulent ou qui tuent effectivement leur père. Tu dis, dans la fiction québécoise contemporaine, ce sont surtout les filles qui passent à l'acte, ou donc au parricide. Mais tu notes en même temps, dans le même passage, que dans les faits, dans la société, la très grande majorité des meurtres, que ce soit meurtre du père ou meurtre de qui que ce soit, sont commis par des hommes, par des garçons, par des hommes. Et donc là, on voit que, en d'autres termes, il y a un décalage entre la réalité littéraire qui semble... Alors, on comprend qu'il y a là un investissement particulier du point de vue féminin, probablement, mais ça pose toute la question du... J'avais l'impression parfois que tu te rapproches de la notion de reflet, mais tu la critiques en même temps. À d'autres moments, au contraire, on a l'impression... Alors là, c'est peut-être justement cette écriture dont parle Nicolas, qui est la recherche d'autre chose, d'un autre rituel, mais qui n'est pas nécessairement encore tout à fait concrétisé dans la réalité sociale. Mm-hmm. Est-ce que c'est un peu ça ou est-ce que...
Oui, l'idée de reflet, évidemment,
on est assez jamais problématique,
mais on n'y échappe jamais tout à fait. Il y a quelque chose, là, on vit un moment historique, là, un moment de transition, comme on disait tout à l'heure, et on le voit dans les médias, on le voit au cinéma, on le voit dans la littérature. On ne le verra pas de la même façon, chaque discours va modeler son objet différemment, va avoir une autre manière de poser la question, mais tout de même, on est dans ce moment. Et je pense que l'abondance, ne serait-ce que ça, de pères, tout à coup, dans la littérature, surtout des femmes, parce que les hommes parlent du père dans le roman depuis plus longtemps, de façon massive, finalement, alors que, il y a très peu de romans québécois qui parlent du rapport entre la mère et le fils. Il y en a un certain nombre, mais c'est minoritaire. Mmh. Et les romans mère-fille, dont j'avais parlé dans cet autre livre, étaient écrits par des femmes, alors que là, depuis une vingtaine d'années, surtout, les femmes investissent beaucoup aussi à la question du père. Alors, finalement, c'est ça. Il y a un lien, il y a un lien avec le social, parce qu'on voit que les mêmes sortes de questions se posent, malgré tout. Mais la littérature, évidemment, les pose à sa manière, et souvent en ne répondant pas, alors que les médias veulent répondre.
Tu le notes à un autre moment aussi, quand tu dis, durant que j'écrivais mon livre, les gens me disaient, est-ce qu'il y a des bons pères dans la littérature québécoise? Et là, tu dis, tu reprends ce thème-là en disant, oui, mais le roman aime le malheur, les intrigues, les conflits, et tout ça, de sorte que le bon père, il est peut-être pas si intéressant, finalement, du point de vue de la fiction.
Mais il y en a, j'étais bien contente, parce que moi aussi, je les cherchais finalement, pas écrire que des chapitres déprimants. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure demeure vrai, c'est-à-dire, des fois, même un roman très sombre peut porter l'espoir d'autre chose, ou peut nous dire, peut nous annoncer ou appeler autre chose. On ne sait pas nécessairement, parce que ça finit mal, que c'est totalement désespéré, autant. Mais disons que le cas, effectivement, des filles parricides qui sont nombreuses dans la littérature et peu nombreuses dans la réalité, pose une question intéressante en soi, c'est-à-dire, là, il y a un décalage réel, et là, on doit se dire, mais si ça se passe dans la fiction et non pas dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors que quand c'est vraiment en miroir, c'est autre chose. Et là, je me disais, bon, entre autres, qu'il y a une colère des femmes par rapport à ça, il y a une violence par rapport au père qui n'a pas été exprimer, alors que le parricide au masculin, si on veut, c'est aussi banal. Vieux que Oedipe, sinon plus. Alors que là, le parricide au féminin, ben, il n'y avait pas. Et je pense que ben, c'est pas que je souhaite que naturellement les femmes tuent leur père, là, c'est pas ça. Non, mais je pense que ça exprimait quelque chose qui ne l'avait pas été. Et peut-être que la littérature le permet.
Pour toi, Nicolas, cette volonté du parricide chez les femmes ou les filles, c'est quelque chose de que tu sens ou, enfin, sur le plan purement, ça peut être purement sur un plan symbolique, mais le goût de tuer le père ou en fait un certain père, là, tu sais.
Oui, certainement. Moi, toutes les constellations sont possibles. Celle-là, elle a été un peu refoulée peut-être en littérature parce que je dirais c'est peut-être les femmes et la violence, point.
Je veux dire aussi, en tant que praticien, est-ce que tu le sens chez beaucoup de femmes?
Oui, mais je sens, il n'y a pas seulement ce modèle-là, là, mais il y a aussi le matricide qui est assez populaire, mais il y en a qui veulent tuer les deux, donc ça existe aussi, mais oui, c'est sûr qu'il y a une espèce de colère, évidemment. Bon, dans le livre, c'est évident que c'est lié beaucoup à l'inceste aussi. Toutes les problématiques d'abus, c'est sûr que ça peut effectivement créer plusieurs choses. Une colère qui soit complètement refoulée, autodestructive, mais ça peut aussi exploser là, à la Antigone. Oui, il y a ça, certainement. Et peut-être qu'au Québec, justement, il y a peut-être plus de place pour ça. Peut-être que les femmes ont plus le droit de crier, et tant mieux. Dans le fond, les hommes, on a le droit de crier depuis longtemps, donc et on a le droit d'être violent depuis longtemps. Et c'est très sain que ce soit fait de façon symbolique, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, mon exemple préféré de ça, c'est dans Hamlet, la scène où le fils, finalement, se venge par le théâtre, c'est-à-dire qu'il fait une pièce de théâtre où il y a un meurtre, et déjà là, c'est déjà une espèce d'idée que la culture peut permettre une vengeance, et non pas un œil pour œil, dent pour dent, et donc que ces femmes-là le fassent par la littérature, et non pas dans une ruelle tuer un homme, c'est pour moi déjà un signe de civilisation, si on veut, puis de la littérature guérit pas tout, mais permet une sorte de...
C'est une construction.
Oui. Mm-hmm. C'est pas une justice, évidemment, mais c'est au moins on a le droit de tuer à quelque part. Et la littérature sert peut-être à ça aussi. Le droit de se venger, finalement.
Elle permet de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. C'est donc ça.
Oui, il y a une autre dimension. Moi, ça change un peu de sujet, mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre-là. C'est que tu prends en charge aussi, dans toutes ces figures du père, les figures d'écrivains immigrants, ou bon, je pense à Marco Micone, Ying Chen, Pambuyukas, quelques autres, mais je pense notamment aux figures enchantées de Marco Micone, où on a là une figure du père absent ou étranger, mais particulière, parce que bon, il immigre le premier, les enfants restent en Italie, puis ils viennent le rejoindre, mais là il y a un décalage constant. Alors donc c'est toute cette problématique là aussi qui est évidemment très actuelle aussi. Du rapport au père immigrant.
Oui, ça, c'est sûr que ça, il y a des configurations particulières à l'intérieur chez certains écrivains migrants. Et puis en même temps, c'était important pour moi, même si ce n'était pas le sujet principal de mon livre, de dire les écrivains migrants, je ne veux pas les mettre dans un chapitre à part. Je ne veux pas, parce que je pense que bon, et ils sont, il y en a qui sont là depuis 30 ou 40 ans, je pense qu'on a le droit de dire que c'est des écrivains québécois. Oui. Et j'avais envie de les traiter comme tels, et donc il me semblait qu'il y avait des problématiques très semblables, par exemple, dans le livre de Marco Micone et du livre de, comment il s'appelle, Filion. François Gravel, pardon. Filion et frère, merci. Ouais. Enfin, quelqu'un qui a lu mon livre, c'est très bien. mieux que moi, mais je me souvenais pas. Et c'est deux livres qui sont vraiment parallèles dans la mesure où c'est un père qui ne parle pas beaucoup, mais qui travaille pour sa famille, qui est un travailleur avant tout, et la problématique de la classe sociale, les enfants avec une ascension sociale, une éducation, mais permise par le travail du père. Et puis là, après, les fils qui reviennent au père par l'écriture, et qui et le roman, donc, et cet hommage au père, et ça, la façon de dire, bon, on va revenir à lui, on va renouer avec lui dans l'écriture. Alors pour moi, c'est des livres semblables, et l'origine de l'auteur, enfin, je voulais tenir compte évidemment de la particularité des situations qui étaient décrites, mais je voulais pas mettre des catégories comme ça, parce que je pense qu'il est... Je pense que le moment de faire ça est révolu. Il y avait un intérêt à faire ça, puis maintenant, je pense qu'il ne faut plus faire ça. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Je ne suis pas une spécialiste de la question. Mais en fait, il y avait quand même des grands parallèles comme ça. Et c'est des pères empêchés, des pères qui étaient là, comme dit Nicolas, qui étaient là sans pouvoir être là.
C'est ça.
Ah, parce que tout le temps, même le père migrant qui est venu bien avant sa femme et les enfants, est venu pour qu'ils aient cette vie meilleure. Et c'est exactement ce que dit François Gravel dans son livre aussi, que le père travaillait, il avait un magasin de meubles, et il travaillait, il n'était jamais à la maison, il était toujours au magasin. Mais pourquoi il faisait ça? Pour que ses enfants vivent dans une belle maison avec une pelouse, alors que lui avait grandi dans un appartement sordide. Et puis c'est ça aussi, un père absent peut avoir donné ça aussi à ses enfants.
Oui. Ça me fait penser, dans ton livre, il y a des encadrés, là, objets du père, et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis ça me fait penser que c'est un livre aussi, je trouve, qui fait beaucoup ressortir le rapport à l'objet. C'est-à-dire que quand on n'a pas accès à son père de façon intime, on a accès à ses objets. C'est-à-dire que, bon, papa travaille, amène de l'argent, papa, bon, va peut-être acheter un vélo, papa va peut-être laisser un marteau traîné, toutes ces
idées. Comme dans Nikolski.
C'est ça.
Oui, le compas.
Le compas, exactement. Il y a cette tragédie-là d'avoir accès aux objets du père, mais pas au père. Et puis, je trouvais qu'il y avait vraiment un lien intéressant avec, là, on pourrait amener ça loin, là, mais avec aussi toute la société de consommation, c'est-à-dire que d'avoir accès à des objets, et puis c'est aussi l'histoire peut-être d'une certaine immigration d'ailleurs, d'avoir voulu s'en sortir matériellement et tout ça, puis on voit que finalement notre rapport aux objets est peut-être relié à tout ça, c'est-à-dire que si on avait accès à autre chose, peut-être qu'on serait moins dépendant des objets.
Mais c'est un substitut, c'est une sorte de métonymie du père, c'est son corps là, en quelque sorte, ou parfois ce qu'il pourrait incarner. S'il était là comme le compas, qu'il devrait montrer le nord, qu'il devrait nous montrer vers où aller. Ah, il se perd, là, le compas, après. Là. Mais c'est des images fortes, il me semblait. Et c'est toujours des objets qui ont peu de valeur matérielle, qui ont une valeur symbolique. Mais c'est pas des choses chères, c'est pas de la vraie consommation, mais je trouve que cette idée est quand même intéressante. Comment on peut créer, dans l'absence, une présence, que ce soit par l'objet, que ce soit par l'écriture. Parfois, c'est même après la mort du père, c'est d'écrire sur lui, faire le deuil par l'écriture. Et à ce fantasme que je voyais continuellement dans le corpus, qui est si seulement j'avais accès, mon père a peut-être tenu un carnet.
Mais oui.
Et si j'avais accès au carnet de mon père, je connaîtrais mon père. Et c'est plutôt, plus souvent qu'autrement, c'est un fantasme.
C'est même un objet au fond de la littérature, de tenir le livre, de tenir le carnet, les mots, une matérialité.
Et c'est le corps du père qu'on tient là, c'est le père même qu'on tient là ou qu'on voudrait tenir là, finalement. Mais les quelques fois où on trouve le carnet, en réalité, il n'y a pas grand-chose dedans. Il est pauvre, le contenu est pauvre, c'est un journal avec des dates, et, pas beaucoup d'intérêt, et c'est plutôt comme fantasme. Que c'est intéressant, c'est-à-dire mais il y aurait un pont, et je pense que c'est ça la littérature aussi, il est normal en quelque sorte qu'elle dise ça, c'est-à-dire que c'est par l'écriture que le rapprochement va se faire, l'hommage va se faire, le deuil va se faire, enfin tout ce qui est
même cliniquement,
travail,
moi je peux le dire, j'en ai des patients où j'en ai déjà eu qui ont écrit littéralement des lettres à leur père parce qu'ils ne pouvaient pas se parler, donc on voit la quête de l'écriture à ce moment-là devient déjà investie de cette possibilité de passer par une autre voie, finalement, pour se rapprocher de l'autre. Et puis ça, c'est intéressant aussi de voir comment l'écriture peut être, finalement, un canal possible. C'est-à-dire que même si l'autre nous écoute pas, on peut au moins aller vers l'autre. Et puis ça, c'est l'avantage de l'écriture, c'est qu'on voit pas que l'autre nous entend pas.
Il y a des romanciers qui sont comme ça, qui sont une sorte de lettre directe ou indirecte au père, c'est juste.
Tu consacres plusieurs pages à la fin au roman français de Noël, La Conjuration des bâtards. Ton titre, c'est La famille plurielle. Donc, est-ce qu'on s'en va de plus en plus vers ça? C'est-à-dire, je trouve ça intéressant que tu dises la bâtardise, le métissage se place désormais du côté de l'éthique, alors que les valeurs familiales conservatrices, la pureté raciale, tout ça sont du côté de la violence et sont disqualifiés. En même temps, je crois que c'est dans ces pages-là que tu dis que, ou tu cites un auteur qui dit que c'est la notion même d'illégitimité du père qui aujourd'hui n'est plus là. C'est-à-dire que, alors qu'autrefois, le père légitime était une notion absolument fondamentale. Et là, oui. Je trouve ça intéressant. Finalement, revalorisation même de la bâtardise.
Ça, c'est un changement total, ça, ou quasi. C'est-à-dire que, avant, le père n'était même pas, ne questionnait même pas la légitimité du père. Mm-hmm. Il était la légitimité et il la donnait. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'avait pas de père, ce qui est une impossibilité biologique, ça n'existe pas, là, un enfant sans père pour vrai, mais qui n'avait pas de père qui, légalement, l'avait reconnu, était un bâtard. Alors, c'est le père qui donnait ou ne donnait pas la légitimité. Alors qu'une des choses auxquelles je ne m'attendais pas, mais qui était très forte dans ce corpus, c'est que ce sont les enfants, hein, dans ces romans, généralement, qui donnent ou qui ne donnent pas la légitimité au père, qui font le procès du père, puis il va lui dire, OK, toi, tu es un bon père, je te reconnais, ou encore, celui-là, ce n'est pas un bon père, ce n'est pas mon père, je le renie, et soit je me cherche un père de substitut, ou je me passe de père, ou peu importe. Et ce sont parmi les très nombreux développements qu'il y a dans ce long roman de Francine Noël que j'aime beaucoup et que j'ai mis à la fin, et c'est l'un des seuls auxquels je consacre effectivement un chapitre complet pour un seul livre, parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est vraiment un livre extrêmement original. Et là, il y a une douleur liée à la bâtardise, parce qu'il y a des viols, il y a des violences, il y a des enfants qui se sentent fortement privés de cette reconnaissance du père, mais aussi un lien avec la créativité, avec le métissage, bon, racial, culturel, parler plusieurs langues, qu'on vive ici ou qu'on vive ailleurs, qu'on invente des modèles, et c'est un modèle qui, en même temps, est une famille nouvelle, c'est-à-dire peut être dans notre famille, n'importe qui peut être dans notre famille, toutes les personnes avec qui nous avons des affinités, il n'y a pas nécessairement de lien biologique, donc c'est une famille totalement éclatée, réinventée, on va dire, bon, ça, c'est comme une sœur, mais ce n'est pas une sœur biologique ou un enfant ou peu importe, et tous les modèles sont là et sont possibles, et on se met avec les gens avec qui on est bien et avec qui on peut construire quelque chose, avec qui on peut avoir des projets, et en même temps il y a tout un projet finalement altermondialiste qui est développé dans ce roman là mais à partir de ce noyau très grand et très petit en même temps, qui est la famille biologique, et au-delà, toutes les alliances d'amitié, d'affinité qu'on va se créer. Et ça m'a semblé, s'il y a un roman national qui, pour moi, justement, n'est plus dans ces vieux modèles et qui ouvre dans tous les sens et qui nous donne plein de possibilités, même s'il y a beaucoup d'événements très sombres qui surviennent dans ce roman, entre autres le suicide du poète national. Hein, mais il y a quand même, pour moi, là, un modèle qui est très intéressant et qui n'est plus du tout binaire et qui a aussi où il y a aussi de nouveaux pères hein, qui veulent changer la paternité et changer le monde en même temps.
Mais oui, mais avant la table ronde, on en parlait un peu justement de comment repenser, si on veut, la souveraineté, par exemple, du Québec, mais d'un point de vue qui serait pas, je dirais, ancré dans ce paternalisme-là. Parce que c'est vrai que les révolutions ont souvent été le père de la nation et puis et le fils aussi révolutionnaire, et c'est une affaire d'homme finalement cette histoire-là, et aussi l'accès au rang de père là, dont on entend parfois parler comme si c'était ça le but d'une souveraineté du Québec, alors que non.
Les hommes québécois ne pourront passer au rang de père qu'après avoir fait l'indépendance. S'ils échouent à être père, si les fils échouent à être père, c'est parce que l'indépendance n'est pas faite.
Donc, il faudrait. Ce qui est assez fascinant, parce qu'on ne pourrait jamais la faire. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais la faire parce que les fils ne sont pas des pères. Ils ne peuvent le devenir que s'ils font l'indépendance, mais ils ne peuvent pas la faire parce qu'ils n'en sont pas. Non, c'est assez désespérant comme constat sur la souveraineté.
On pourrait proposer des choses plus intéressantes, justement.
Tout à fait. Mais là, il y a une
impasse. Une proposition, là, parce qu'il faut arrêter de propager ces choses. C'est que peut-être qu'on pourrait se demander si une des raisons qu'on voit toujours négativement aussi le blocage québécois, on pourrait aussi se valoriser un peu plus en se disant que peut-être aussi qu'on sent qu'il faut pas accéder à ce rang de père, parce que si c'est ça faire un pays, peut-être qu'on aime mieux pas le faire d'une certaine façon. Si c'est répéter le patriarche du passé, la domination du masculin, peut-être qu'on se dit « Ah, je suis pas sûr que je suis à l'aise là-dedans. » Et puis peut-être qu'il faut amener un nouvel idéal dans lequel on se reconnaîtrait, parce que il y a au Québec justement moins cette espèce d'accrochage au père avec un grand P, et peut-être que de relier le politique à quelque chose qui est plus proche du féminin, ça pourrait nous rejoindre beaucoup plus, puis peut-être qu'on n'est pas rendu là justement dans le discours sur la souveraineté, puis que relier ces choses-là, ça pourrait rendre le projet beaucoup plus intéressant. Puis peut-être qu'on bloque aussi, un peu comme les pères d'aujourd'hui dans le corpus que vous avez étudié, certains veulent pas devenir pères aussi aujourd'hui parce qu'ils veulent pas devenir des pères comme ils ont eu. Et donc, c'est ça le blocage. Et qu'ils se disent, moi, tant qu'à être un père, un mauvais père, finalement, ou un père traditionnel, je préfère ne pas en être.
Ne pas l'être du tout.
Mm-hmm. Oui. Et on pourrait faire le parallèle avec le pays. C'est-à-dire que tant qu'à faire un pays comme les autres, j'aime mieux pas en faire un. Et puis, etc. Donc, en tout cas, il y a cette logique-là mm-hmm. qu'on pourrait lancer, mm-hmm. qui est plus intéressante que seulement un échec, au fond.
Oui.
Si on ne participe pas à...
Pour le dire un petit peu autrement, je pense qu'il pourrait y avoir, mais il n'y a pas eu de projet souverainiste réellement mixte.
Mm.
Hein? Et ça, ce serait beaucoup plus mobilisateur, il me semble, pour ne serait-ce que la moitié féminine de la population.
Ben voilà, exactement. C'était dans le temps quand même des manifestes là, sur la laïcité, le pluralisme et tout ça. Bon, je me disais qu'une des pentes qu'on n'avait pas explorées, c'était aussi un discours peut-être plus féministe dans le sens contemporain là, du terme, là, de la mixité. Puis comme il y a dans le livre, ce serait une autre piste, je pense, pour le discours souverainiste qui est très rarement exploré.
Mais il faut dire aussi que historiquement, le discours indépendantiste québécois et nationaliste, bon, tout ça, s'est formulé à une époque où les femmes occupaient finalement peu de place dans ce discours-là. Si vous prenez, on cite toujours Michel Lalonde dans les années 60, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Les femmes qui écrivent les grands noms de la littérature, Gabriel Leroy, Marie-Claire Blais et Anne Hébert, sont pas du tout dans cette mouvance-là à l'époque.
Non, pas du tout.
Un mouvement comme Parti pris, est-ce qu'il y a quelque chose de plus purement masculin que Parti pris, où les femmes ne jouent que le rôle de secrétaire, elles tapent les textes derrière? Mais c'est arrivé à plusieurs femmes de cette époque-là, Micheline Sainte-Marie, Mathilde Ganzini, Gisèle Véraud, je pourrais en nommer plusieurs, parce que je viens de faire la biographie de Miron, et puis je les vois, toutes ces femmes-là, qui sont toutes, qui jouent toutes le rôle de bonnes, finalement, pour... Mm-hmm. Alors, donc, ça... On peut pas faire abstraction de ça, que ce discours-là, c'est aussi formulé dans un contexte très masculin.
Tout à fait.
Très masculin.
Il y a eu une critique féministe du projet souverainiste de ce point de vue-là.
Oui.
Ça, on a eu, mais ce qu'il n'y a pas eu, c'est effectivement une façon de... Comment est-ce qu'on pourrait penser ça, tout le monde ensemble? Et c'est peut-être aussi ça,
qui est drôle, c'est qu'on prend les critiques comme des assassinats, en fait. C'est un peu comme quand on critique la psychanalyse est morte. Quand on critique la souveraineté est morte. Quand on critique... c'est faux, au fond. Les critiques, ça fait renouveler le discours. Mais bon, ça montre qu'à quel point on n'a plus d'espoir en grand-chose. Mais pourtant, il faudrait. Hein. Tout ça, c'est possible.
On revient toujours à la question nationale.
Le roman de Francine Noël, à mon avis, offre des pistes pour quelqu'un qui voudrait se dire comment est-ce qu'on pourrait regarder ça autrement, parce que ça va justement d'une famille plurielle à une société plurielle à une ouverture sur le monde. Alors ça, c'est une des choses aussi qu'on a eu du mal à faire au Québec, c'est-à-dire ne serait-ce que le rapport à la langue anglaise et ainsi de suite, et là c'est l'espagnol, c'est l'appartenance au continent américain.
Ça m'a fait penser à un roman, mais qui ne pouvait pas être dans ton corpus parce qu'il est sorti trop tardivement, c'est celui de Monique Larue, pas La gloire de Cassiodore, mais l'autre, L'œil de marquise, qui n'est pas nécessairement, quoique il y a des pères, mais qui aussi va dans une espèce d'ouverture comme ça. Peut-être qu'on pourrait aussi laisser... si le public intervient, il y a un problème.
Mais ils viennent au micro.
Il faudrait leur donner un micro. Ou peut-être donner un micro. Je peux donner le mien. Est-ce que quelqu'un a des... Si vous pouvez... Oui, madame, allez-y.
Il faut venir.
Oui, les micros, je connais. C'est pourquoi. J'allais poser une question et à la fin, vous avez abordé la réponse. Moi qui, hélas, ne connais pas assez bien ou même presque pas la littérature québécoise, je voulais savoir quelle était la spécificité justement de ce rôle, de ce nom du père, et de toute la question du père, par rapport à d'autres littératures, la française, l'américaine, etc. Ayant entendu plusieurs choses récemment sur la littérature française, je vois bien que c'est très différent. Mais je vois la différence maintenant parce que vous avez soulevé la question de la souveraineté. Alors celle-là, elle est effectivement très différente. Cela dit, je suis pas certaine non plus que ce soit spécifique au Québec, parce que on est en train de voir des révolutions dans le monde qui sont des attaques contre le père, le roi, le président de 40 ans, le général, tout ça, ce sont tous des pères, et les femmes participent peu, mais elles participent quand même à cela. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec la littérature, mais ça, c'est la part de la société dont la littérature est le reflet ou pas, etc. J'ai bien suivi tout ce que vous avez dit. Et au départ, donc, je me demandais, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la littérature québécoise qui se pose des questions sur... ou pas, sur qui est le père, quel est le père, est-ce qu'il y a des nouveaux pères, etc. Toutes les littératures posent la question, et peut-être que la réponse est, va lire dans les littératures québécoises.
Mais c'est une question que je me posais tout au long, et effectivement, beaucoup de ces thèmes, j'essaie chaque fois, je n'ai pas lu de façon aussi systématique d'autres littératures, mais quand même, on en lit un peu, et je voyais beaucoup de romans d'ailleurs qui parlaient à peu près des mêmes questions, et je les signalais comme ça rapidement, et c'est clair que on voit cette crise de la paternité, on l'appellera comme on voudra, dans plusieurs sociétés occidentales en ce moment, à cause de facteurs qu'on connaît bien, il y a la montée du féminisme, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la laïcité, c'est l'immigration, c'est le divorce, les changements familiaux, l'émergence de nouveaux types de familles, homoparentalité, monoparentalité, etc. Alors ça, on voit ça partout. Ça, c'est clair. Il y a, des pères meurent partout et des enfants écrivent sur la mort de leur père. Des pères perdent leurs enfants partout et écrivent des romans sur cette question. Alors, il y a quand même une sorte de caractère universel ou du moins occidental à plusieurs de ces questions telles qu'elles sont posées dans la fiction. Et en même temps, il y a notre question nationale, la fameuse question nationale. C'est sûr qu'elle revient tout le temps. Il y a quelque chose peut-être autour du féminisme, qui ici s'est exprimé peut-être dans un sens plus qu'ailleurs. Ce sont quelques pistes, mais je suis pas sûre qu'il y a toujours une spécificité québécoise, en effet, à cette
thème. Il y en a une, c'est que, au Québec, on est toujours très fiers des révolutions qui se font ailleurs, mais pas ici. Ça, c'est spécifique au Québec. Ça, c'est, on regarde les nouvelles et on est fiers de tous les peuples, mais pas le nôtre. Mais ça, c'est spécifique. Mais il y a aussi une chose, je prendrais un exemple, par exemple, d'un VLB qui a travaillé sur Joyce, et puis, je parlais de la mère tantôt. Il y a aussi toute l'Irlande qu'il y a au Québec, ce qui est spécifique peut-être, mais il y a sûrement d'autres peuples. C'est ce mélange de deux cultures et qui sont très différentes au niveau du père et de la mère. C'est-à-dire qu'il y a toute cette espèce d'imagerie de la mère irlandaise, par exemple, dans la mythologie et tout ça, qu'il n'y a pas du tout en France, par exemple. Et ce mélange-là au Québec est assez particulier, je crois, et ce qui fait qu'on est métissé là-dessus et qu'on se pose des questions, j'imagine.
Il me semble qu'il y a une figure qui est un peu traditionnelle, mais qui est quand même très importante dans la littérature québécoise. L'exemple qui me vient en tête, c'est plus du côté de la poésie, c'est Jacques Brault, la figure du père chez Jacques Brault. Alors là, le père, c'est le père humilié, le père d'abord peu éduqué, mais là, ça peut prendre toutes sortes de formes, probablement chez d'autres écrivains aussi, humilié aussi parce que le patron était anglais, puis tout ça, mais humilié plus fondamentalement un père qui... Et alors, par rapport auquel le fils est en progrès à la fois intellectuel et social, lui a accédé aux études, et là, il y a un phénomène générationnel, mais qui a été très important cette époque-là, dans les années 60, et les figures de pères, vraiment, des pères impuissants aussi devant leur destin, forcément. Ça, je pense que c'est quand même très fort dans l'imaginaire québécois, mais c'est pas juste un imaginaire, là. C'est une expérience pour beaucoup.
Oui, c'est plus le fait de générations précédentes que des livres plus récents dont je parle, mais effectivement, c'est très, très fort.
Je pourrais pas
ça.
Dire ça de mon père, par exemple. Mon père est un père humilié.
Mais on voit jeune, ça même chez des romans. Oui, mais il y a les romans d'Yvon Rivard où il y a cette figure-là qui est présente chez Michel Tremblay. On va voir cette figure également. Mais chez les jeunes, c'est moins ça. Ou chez les jeunes, je devrais pas dire chez les jeunes, dans les romans plus récents, qu'ils soient de personnes plus âgées ou plus jeunes, là, plutôt ça. Il y en a beaucoup moins de ça, et si le père est dévalorisé par l'enfant, c'est beaucoup moins par cette humiliation extérieure sociale qu'à cause de quelque chose que lui-même a fait, d'un crime que lui-même a commis. Ce contexte culturel qui est absolument juste et très très présent pendant longtemps, l'est peut-être moins depuis dans les romans des 25 dernières années.
Il y a peut-être les pères de première génération d'immigrants, peut-être encore aujourd'hui.
Oui, voilà, chez Mikone, il y a ça.
Peut-être que les fils ou les filles écriraient sur leur humiliation à eux, peut-être encore aujourd'hui, j'ai l'impression.
Chez les immigrants, il peut y avoir aussi carrément même une honte des parents, et notamment du père. Même sur le plan de la langue, mon père parle mal le français, alors que moi, fils d'immigrant ou fille d'immigrant, je le parle beaucoup mieux. Je sais que ça existe chez les immigrants.
Carrément la difficulté de communiquer, parce que le père ne parle que la langue d'origine, et l'enfant la parle beaucoup moins. Parce que le père, souvent, a voulu que l'enfant aille à l'école et apprenne le français ou l'anglais.
Exactement.
Alors, mais il y a cette fissure entre les générations. Ça, ça demeure actuel.
Je crois que...
Ici, dans le plateau Mont-Royal, moi, j'ai travaillé depuis 40 ans au CLSC, ici, dans le quartier. C'est beaucoup le... En 40 ans, il y a eu la gentrification dans le quartier. Puis, c'est les gens comme ici, là, qui sont maintenant, qui habitent dans le plateau Mont-Royal, qui remplacent... Avant ça, ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était l'Église qui définissait le rôle du père, des gens qui n'avaient pas d'enfants, des prêtres, des religieuses. Là, c'est un groupe social qui lui-même a pas beaucoup d'enfants. Dans le plateau Mont-Royal, le groupe social qu'on est, il y a un logement sur deux, c'est des personnes seules, adultes, qui n'ont pas d'enfants. On a remarqué au CLSC que le discours de formation à la paternité, à la maternité, c'était pas la même chose. Souvent, les gens refusaient un rapport d'autorité à leurs enfants qui était différent des groupes sociaux à l'extérieur. Ma question, en fin de compte, c'est pour dire, est-ce que les livres que vous avez lus, qui sont produits par des gens d'une classe sociale, est-ce qu'ils peuvent effectivement comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de la société? Est-ce qu'on n'est pas, comme les prêtres à l'époque, des gens qui, en bonne partie, n'ont pas d'enfants, donne un discours pour ceux qui, eux, en ont. Je sais pas si vous comprenez un peu, je me demandais s'il n'y a pas... Puis, au niveau de la communauté juive, par exemple, il y a comme une sorte d'obligation morale à avoir un enfant, ce qui n'est pas le cas dans une société comme la nôtre. Est-ce que c'est ça, puis est-ce que... C'est ça ma question, dans le fond. Je remarque en tristesse d'avoir une certaine... On dirait qu'une permanence... L'Église a été remplacée par un groupe social qui, lui aussi, n'a pas beaucoup d'enfants.
Mais la plupart de ces romans, je dirais, enfin, je me suis pas du tout intéressée à l'aspect biographique de la chose, mais disons que beaucoup de ces romans sont centrés autour d'une histoire personnelle. Il n'y a pas toujours un discours pour dire les pères sont, les pères doivent, les pères... Bon, il n'y a pas de prescription, autrement dit, nécessairement. Et la plupart des romanciers, je crois, ne voient pas leur rôle comme étant de définir la paternité. Alors que l'Église, effectivement, vous avez raison, faisait ça. Le rôle des romanciers, c'est de semer le trouble, finalement, c'est de poser des questions ou c'est de nous faire des portraits qui peuvent être tout à fait singuliers, qui peuvent ensuite avoir des résonances plus grandes peut-être, mais qui n'en ont pas nécessairement. Mais je pense pas que le roman fonctionne de manière générale de la manière que vous décrivez là. Est-ce que les romanciers ont des enfants ou pas? Ben, plusieurs en ont, plusieurs n'en ont pas. Ouais. Plusieurs en ont quand même. Ceux-là écrivent peut-être moins de romans que ceux qui n'en ont pas. Ça, ce serait une autre question à poser.
Plusieurs manquent d'argent aussi.
Voilà.
Donc, en termes de classe sociale,
aussi,
on pourrait dire ça.
C'est pas tous les écrivains qui sont souvent instruits, mais ils ne sont pas toujours riches, pour autant, ça c'est clair.
Mais ce que vous dites s'applique plus peut-être aux psychanalystes dont on parlait au début, c'est-à-dire qu'ils ont repris un peu le flambeau du discours religieux, effectivement. Et j'ajouterais les spécialistes en tout genre. Hein. On entend, il y a eu le docteur Chicoine, par exemple, qui a pris position sur comment il faut être proche du bébé, puis tout ça. Puis il y a tout un discours qui existe encore tout à fait de spécialistes, là, disons, de gens qui ont un pouvoir social, je dirais les médecins, mais les psychologues aussi beaucoup, qui disent au fond comment on doit effectivement élever son enfant. Et d'ailleurs, c'est des best-sellers en librairie, là, il y en a plein. Pas ici.
Non, pas ici.
Ça s'en vient.
Mais que les psychanalystes donnent des réponses, c'est un autre problème.
Ouais.
Qu'ils donnent des conseils normatifs, là, qu'ils élevaient un enfant, voici les cinq règles. C'est vrai que ça fait vendre. des exemplaires de livres, là, ça c'est clair, parce qu'on est à la recherche de certitudes, comme on a toujours été, mais c'est pas ça la psychanalyse non plus. Et justement, c'est la psychanalyse qui devient une espèce de parole d'évangile, mais plus de la psychanalyse à mon sens.
C'est ce que je pense, c'est ça, moi aussi.
On se rejoint complètement là-dessus. Ouais.
Mais effectivement, je sais pas, vous vouliez aller avec l'idée des classes sociales aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un discours, par exemple, du plateau Mont-Royal par rapport à ça, ou... Ok.
J'ai pas étudié les romans en fonction de l'endroit où vivaient leurs auteurs, mais ça pourrait se faire.
Les gens qui produisent, qui écrivent, c'est un groupe social.
Ça, c'est clair, oui.
C'est ça
que tu dis. Oui, oui, oui.
Donc, pas, est-ce qu'il y a un discours de groupe social, je dirais, par rapport à la fonction du père qui n'est pas nécessairement applicable à l'ensemble de la société?
Bonne question.
C'est une très bonne question. Moi, j'ai trouvé la problématique de la classe sociale moins présente dans ces romans que ce à quoi je m'attendais, parce que pour moi, c'est une question
d'ailleurs,
importante.
C'est pas une question, que tu soulèves vraiment
Je voulais la poser. Ouais, c'était dans mon idée de la poser, parce que je me la pose tout le temps, étant une personne qui vient d'une famille ouvrière et qui maintenant est à l'université, je me la pose tout le temps. Et il y a certains romans, on parlait d'une certaine génération qui pose la question comme ça. Yvon Rivard, c'est un exemple, il y en a plusieurs autres qui sont là. Mais c'était pas aussi présent dans la plupart des romans. C'est un discours explicite, en tout cas. Il n'y en avait pas autant que ce à quoi je m'attendais.
C'est intéressant comme question, parce que c'est vrai qu'au niveau des classes sociales, on peut penser que le père a tendance à peut-être être moins proche au niveau corporel. Par exemple, c'est sûr qu'il y a des espèces de tabous sociaux de distance associés probablement à la classe sociale au niveau de la proximité physique, par exemple, affective, des témoignages d'affection.
La prise de parole,
La prise de parole. Mmh. Donc oui, c'est intéressant comme piste. Peut-être qu'au Québec, on a été pauvres tellement longtemps que c'est moins une question. Je sais pas, mais c'est intéressant comme piste. Mm-hmm. Effectivement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je sais pas.
Ben, bravo pour le livre.
Oui, ben, moi, sûrement, j'allais dire oui. Et je vous encourage beaucoup à le lire, au-delà du nom. Je pense que c'est un voyage. Je dois dire, un des intérêts aussi, c'est que le corpus, il y a à la fois des romans qu'on connaît bien, mais il y en a d'autres qu'on connaît beaucoup moins. En tout cas, moi, je suis pas un grand spécialiste de romans québécois. Là, tu touches beaucoup d'œuvres qui sont quand même moins connues, d'auteurs moins connus, et donc qui donnent un panorama extrêmement riche.
Ça, pour moi, c'était important. Ce que je voulais, c'était... Bon, c'était pas dans l'idée de brosser un tableau de la littérature québécoise. Ça, c'était pas mon idée. Mais mon idée était de voir ce qui se disait aujourd'hui. Mm-hmm. Et indépendamment du fait qu'un auteur avait publié 50 livres ou un livre, avait eu beaucoup de succès ou pas de succès, j'ai essayé de ratisser très large au départ et puis de dire, bon, il y a peut-être des choses, et ça c'est toujours l'intérêt de l'extrême contemporain, mais aussi le danger, il y a des choses sûrement là-dedans qui vont être oubliées très rapidement, mais enfin, peu importe, moi ce que je voulais voir, c'est simplement comment aujourd'hui, on parlait du père, comment on posait ce que j'appelais la question du père. Et c'était pour moi intéressant pour cette raison d'avoir des personnes qui en étaient à leur premier roman, qui n'en feront peut-être jamais de deuxième, mais aussi des classiques contemporains. Mettons, il y a certains des romans plus tardifs d'Anne Hébert, par exemple. Et pour moi, je ne mettais pas... Ce n'est pas que je mettais tout ça sur le même plan, mais je voulais donner droit de citer à beaucoup de voix très différentes, qu'elles soient nouvelles, qu'elles soient marginales, qu'elles soient déjà bien connues ou pas. Ça, c'était une volonté, effectivement, que j'avais. Je voulais m'attarder au texte qui disait quelque chose qui m'apparaissait fort, tout simplement.
Je pense que ça nous sensibilise, en tout cas, à cette grande diversité des figures paternelles, et on peut imaginer que ça va... d'autres romans, de toute façon, vont apporter de l'eau à ton moulin.
Ah, oh, c'est pas fini,
ça risque aussi d'entraîner d'autres études sur la question, sûrement. Parce que,
et les romans n'en finissent pas de paraître, hein. C'est
sûr,
un thème qui demeure tout à fait actuel, et pour très longtemps, hein, tant qu'il y aura des familles, sans doute.
Voilà.
Je peux juste, parce que j'ai très envie de répondre,
Là où vous voyez une sorte de distance entre les écrivains, qui seraient d'une certaine catégorie sociale, et les gens que vous voyez au CLSC, enfin les gens qui vivent leur famille, leur paternité différemment. Moi, je pense, et tu viens de le souligner là, en disant que si tu as étudié les romans les plus récents, c'est surtout une question de changement de société dans toute la société, je pense. C'est-à-dire le fait qu'il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de familles recomposées, il y a tout ça qui fait que ça a une influence directe sur la place du père. Sur le nom du père particulièrement, justement, chez les divorcés, chez les gens qui s'en vont, chez les immigrants, dans toutes ces catégories, dans des sociétés qui, lorsqu'elles étaient sous le contrôle de l'Église, ne connaissaient absolument pas, qui étaient uniformes. Et maintenant, il y a un manque d'uniformité, donc toutes sortes de questions qui se posent, et ça, sans doute, il y a un décalage entre ce qu'on connaît ou ce qu'on connaissait et ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si je contribue ou je détruis ma...
peut-être une petite réponse, oui, ça me vient là, la gentrification du plateau Montréal, c'est un sujet toujours intéressant quand même. Ouais, c'est une bonne piste là. C'est sûr que ce qui est intéressant par rapport à notre discussion de ce soir, c'est que on voit peut-être que c'est vrai que c'est un des symboles de réussite sociale au fond, et on voit que la proximité par enfant est pas encore assez un symbole de réussite sociale, puisque le plateau Mont-Royal de Michel Tremblay, c'était la proximité par enfant un peu partout, les gens étaient proches là, corporellement. Aujourd'hui, c'est vrai que on voit donc qu'on est encore peut-être dans cette idée de valoriser un peu l'objet, la distance, au détriment effectivement d'une proximité familiale. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir socialement quelque chose qui va se passer au niveau générationnel là-dessus, parce que une des fiertés, je pense, des jeunes aujourd'hui, c'est d'être des parents proches de leurs enfants, donc qui n'ont pas les moyens d'habiter dans le plateau Mont-Royal. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer là, c'est sûr, éventuellement. Je sais pas quand.
D'autres romans le diront plus tard.
C'est ça.
D'autres romans le diront. Bon, mais je crois qu'on peut s'arrêter ici, mais on peut continuer de façon plus informelle. Alors, merci Nicolas Lévesque pour tes commentaires très judicieux et ton expérience de la question. Et Laurie, évidemment, pour ce beau livre et pour nous l'avoir quand même un peu plus présenté et avoir réfléchi sur son contenu. Alors, merci aussi de votre présence et voilà. Merci.